A song that comes from Tanzania.
Bonjour, 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 galériennes, galériens. Nous sommes à Marseille, le mercredi 14 mai 2025, et la Terre ne tourne pas très rond. Ben oui, elle tourne pas bien rond, en tout cas. Enfin, à Marseille, à la Friche, ça va, pas trop de soucis. On travaille, on fait de la radio, on expose. Mais autour de nous, ben autour de nous, des gens manquent de tout, et surtout, des peuples manquent de paix. La semaine dernière, pour le 8 mai, nous avons souligné les horreurs de la colonisation et nous pouvons, hélas, continuer à dénoncer les horreurs de la néocolonisation et du racisme qui nous entoure. Dans les années 1930, quand Hitler ou Mussolini allaient occuper des territoires et envahissaient des territoires, ben, ils quittaient la SDN. Vous savez, la SDN, l'ancêtre de l'ONU. Donc, ils quittaient la SDN pour avoir les mains libres. Mais aujourd'hui, l'État d'Israël décide de détruire Gaza et le peuple palestinien qui y vit. Eh bien, l'ONU condamne, oui, l'ONU condamne, mais rien n'y fait. L'armée israélienne a les mains libres. Alors nous, ben nous manifestons. La semaine dernière, le 8 mai, c'était pour rappeler les massacres du 8 mai 1945 à Sétif et dans l'Est algérien. Et cette semaine, samedi, oui, samedi 17 mai, au Vieux-Port, à 17h30, en solidarité avec les peuples en lutte contre les différentes formes de colonisation, eh bien, nous remanifesterons. Donc, nous manifestons et puis, tout de même, nous lisons. Nous sommes là. Oui, c'est Radio Galère, livres et amis, nous sommes là, Dominique et Françoise, Jules, elle est technique, et nous allons continuer à lire, bien sûr. La semaine dernière, nous avons relu Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire qui revendiquait dans les années 30 et 40 la liberté des peuples colonisés et dénonçait le fait qu'ils étaient écrasés par le racisme et le colonialisme des grandes puissances capitalistes. Eh bien, cette semaine, nous allons vous lire des extraits d'un essai assez polémique de Fatou Diomé, Marianne porte plainte. Une plume franco-sénégalaise, oui, la plume d'une femme noire qui revendique sa place en France, sa place dans la liberté, l'égalité, la fraternité promise par Marianne, notre République, alors que les promesses de Marianne sont souvent mises à mal par les politiques et évidemment surtout les politiques de, enfin les hommes ou les femmes politiques de droite. Alors oui, par la plume de Fatou Diomé, Marianne porte plainte. Fatou Diomé, c'est donc une écrivaine franco-sénégalaise née à Niodior, un village de pêcheurs du delta du Saloum, au sud de Dakar. Et elle a travaillé sans arrêt pour financer ses études, d'abord secondaires, puis supérieures, qu'elle a terminées en France, à Strasbourg et dans la ville allemande voisine de Karlsruhe. Elle a publié depuis 20 ans ou un peu plus une vingtaine de livres, des nouvelles, des romans, des essais et pratiquement toujours en référence à la réalité du monde qui nous entoure et à l'histoire des peuples. Par exemple, son dernier roman, c'est « Les veilleurs de Sangomar », son dernier roman dont elle dit qu'il a été clairement influencé par les histoires, mais aussi l'histoire, que racontaient autour d'elle quand elle était enfant les villageois et les pêcheurs, donc à Sangomar, cette ville au sortir du delta du Saloum. Et dans l'essai que nous lisons aujourd'hui, bah, c'est bien aussi les traces de ce peuple sérère, dont était aussi d'ailleurs originaire Léopold Sédar Senghor. C'est bien ces traces du peuple sérère, précisément fier de ses origines, que nous allons retrouver, puisque dans Marianne porte plainte, Fatou Diome s'élève contre le racisme quasi permanent de la classe politique en place en France, mais en Europe aussi, et fondée sur cette espèce de supériorité supposée des puissances coloniales sur les autres peuples. Donc le racisme ambiant, elle le rattache bien à l'histoire coloniale et en particulier à l'histoire de la colonisation africaine par les puissances d'Europe occidentale. D'ailleurs, la quatrième de couverture de son livre nous le dit bien, cette quatrième de couverture que l'éditeur a choisie, pour laquelle il a choisi un extrait de son texte, face aux attaques racistes, sexistes, islamophobes, antisémites, Marianne mérite mieux qu'une lâche résignation. Ne laissons pas les loups dévorer des agneaux au nom de l'identité nationale. Marianne porte plainte. Et donc ce Marianne porte plainte de la quatrième de couverture, ça renvoie aussi à la dédicace. Une des dédicaces à l'entrée du livre, avant le prologue, une dédicace due à Albert Einstein, qui a écrit « Le nationalisme, c'est une maladie infantile des peuples. C'est la rougeole de l'humanité. » Alors, allons-y, en effet, contre le nationalisme, contre le racisme, Marianne porte plainte.
Messagers du malheur, toujours à trier, accuser, rejeter, ils sont prêts à sonner la curée. Je ne serai pas de ceux qui auront laissé les loups dévorer les agneaux au nom de l'identité nationale. Marianne, porte plainte. Ainsi s'expriment les souches.
Ainsi s'expriment les souches, oui, les souches, ces souches qui sont là en terre.
Je réplique, Fissa, muni de ma sagaie serrère, ma plume. Non, mon pas décidé fait craquer quelques souches. Sapristi, de quoi se mêle cette intruse, philosophe-t-elle. Face de chocolat, rentre dans ta forêt, va donc bouffer des bananes en Afrique. Ainsi s'expriment les souches, dès qu'une branche s'agite. Qui peut espérer autre chose du qui d'une souche ? Je ne suis pas française par le hasard d'une naissance que nul ne doit à son mérite. Née dans les bras sénégalais de l'Atlantique, sous les auspices de Sangomar, arrivée en France à l'âge où Cupidon donne aux jeunes filles le courage de partir, même avec un loup-garou, je suis française par choix, donc par amour, mais aussi par résistance. Car le saut d'obstacle que l'on exigea de moi, 8 années entières, briserait les jambes d'une jument. Pourtant, me voici hennissant de joie à savourer la langue de Molière.
Oui, je passe là sur les images, en effet, liées à la nature, mais les souches, bien sûr, c'est ça, c'est la référence aux Français de souche dont on nous rebat les oreilles. Et puis là, il y a les animaux africains, mais aussi le cheval, vous savez, la plus belle conquête de l'homme, si l'on se réfère en particulier à nos histoires de l'Antiquité, à nos histoires de l'Iliade ou de l'Odyssée. Quand même, dans l'Iliade, les chevaux troyen et le cheval de Troie, Caracol. Je ne sais pas d'ailleurs si le cheval de Troie, ce n'est pas un exemple de dissimulation. Mais enfin, allons-y, continuons et reprenons les images de Fatou Diome.
Et des pirates menacent ma mère adoptive sous mes yeux. Si je leur botte les fesses, ces rabat-joies passeront l'hiver à plat ventre. Malgré tous les efforts des Théodore Monod, Claude Lévi-Strauss, Jean Mallory, merveilleux créateur de la collection Terre humaine, Cheikh Hamidou Khan, pacificateur de l'aventure ambiguë entre l'Europe et l'Afrique, pour bâtir des ponts entre les peuples, les taupes bornent toujours le monde à leurs trous. Tant pis. Nous l'élargirons quand même, quitte à nous faire mordre les talons. Alléluia ou Allah Akbar, le français est l'hostie de ma communion. Hosanna. Le français fleurit en francophonie, comme l'avait prédit Senghor de sa bouche d'ébène. La langue, c'est la part clé de l'identité, puisque c'est dans ses rouages que celle-ci se découvre et se relate. À chacun son histoire et sa petite mythologie qui le rattache à la France. La France n'est pas qu'à cette bande de braillards mal intentionnés, qu'ils avalent leurs sécateurs. Si la greffe était nuisible à la société, elle ne sauverait personne à l'hôpital. Marianne porte plainte contre ceux qui disent défendre son identité, mais en réalité se servent grossièrement d'elle pour asseoir leur funeste dessein. Marianne porte plainte contre les indifférents, les fatalistes inconscients qui laissent une clique de petits Français indignes des grands d'hier démolir les valeurs de la République et s'accaparer l'identité de la France. Marianne porte plainte. Qu'aurait dit Clémenceau, De Gaulle, Jaurès, Blum et Mendès France? Seuls les lâches et les complices laisseront les loups déposséder Marianne de sa dignité, sans livrer bataille. Marianne porte plainte. Adieu la solennelle modulation du général de Gaulle. Adieu l'élégance dans le choix des mots et la voix royale de Malraux que Malraux traçait aux idées jusqu'au cœur de ses concitoyens. Dans le sillage de la marine marchande de haine, des opportunistes tributaires de l'urgence médiatique sont, dirait-on, atteints de la maladie de Gilles de la Tourette et n'ont plus que l'identité nationale à la bouche. Rivalité d'ambitieux, certes, mais quel besoin d'y ajouter une rivalité d'outrance? L'expression révèle tant de la stature d'un dirigeant. À qui le flambeau de la retenue? Un tel prix politique devrait voir le jour. Il réduirait la toxicité des saillies et rendrait un peu de calme aux citoyens. Tenez, par exemple, je voudrais écrire des poèmes, une nouvelle, un roman, une chanson, mais me voici l'œil rubis à tricoter nuitamment une amère prose politique. Ma plume portera-t-elle plainte? Je l'ignore encore. En revanche, je suis certaine que les grandes dames de France comme Louise Michel, Lucie Aubrac, Germaine Tillon, Louise Weiss, qui toutes combattaient les ténèbres pour la justice et la liberté, ne seraient pas restées dans leur boudoir à juger de la finesse de leur dentelle en attendant qu'on démembre, saucissonne leur république de femmes d'honneur. Moi non plus. Marianne porte plainte. Je bondis, brandis ma sagaie serrère.
Oui, la sagaie serrère, celle de Fatou Diomé, celle de Léopold Sédar Senghor. Et comme à l'accoutumée, en effet, les loups se jettent sur l'identité nationale, quitte à écorcher l'idéal républicain. C'est bien ce qu'elle est en train de nous dire, Fatou Diomé. Elle se rattache, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup à l'histoire. Et donc, elle se rattache à l'histoire de la République et de son idéal ou de son image iconique, Marianne, pour dire que, en effet, il faut résister aux loups. Les bourrasques d'idéologie nauséabonde traversent le pays de part en part et n'épargnent que les morts. Et encore. Des quatre points cardinaux, de tonitruantes déclarations nous assaillent, nous assomment, nous asphyxient. Toutes les feuilles ne sont pas d'or, surtout à l'automne d'une année électorale. Des esprits malhonnêtes profitent de l'effroi causé par Daesh pour entretenir l'islamophobie et ranger tous les musulmans avec les terroristes. La laïcité se trouve doublement menacée, car ceux qui prétendent la défendre lui nuisent également, en se montrant parfois aussi extrémistes que ceux qu'ils combattent. Quel que soit leur bord, tous les excessifs ruinent la cohésion sociale. Et parmi eux, les politiciens sont les plus fautifs, car dépositaires du mandat du peuple, ils devraient avoir un devoir d'exemplarité. Attisonner les peurs, cracher la haine aux quatre vents, ils risquent d'embraser le pays. La mesure distingue les sages. L'excès ne dit pas l'autorité, mais l'incapacité à l'exercer sereinement. Quand on lui parle moins fort, l'humain perçoit mieux ce qui s'adresse à la raison. À force de solliciter l'instinct, les bas instincts pourrait-on dire des gens, certains politiciens annihilent la possibilité d'un débat constructif ou d'un débat ouvert, tout simplement. On n'interroge pas les idées quand on est « eux contre nous ». Et quand c'est ce discours « eux contre nous » qui oriente la pensée. Quand chaque mouton connaît son bercail, même Panurge n'a plus besoin de son bâton. Dirigeant politique, ce n'est pas être chef de meute, hurlant, menaçant aux trousses d'autres meutes. Non, on le rêve en guide pondéré qui rassure, inspire son peuple et le mène vers l'espoir à l'horizon. Alors, où en sommes-nous? À quoi aspirons-nous? Comment procéder pour tenter d'y parvenir? Ces trois simples questions, appliquées à chaque domaine important de la vie du pays, suffiraient à tout candidat sérieux pour élaborer son programme, sans avoir à nous enliser dans ces débats si peu généreux à propos d'une identité nationale qui, en réalité, ne souffre que de ses mauvais défenseurs. Avec la mondialisation, la gestion des migrations fait désormais partie de toute planification de l'avenir. Les puissances économiques, c'est vrai, sont toutes concurrentes entre elles, mais elles s'adapteront à cette nouvelle donne. Il faudra donc savoir accueillir l'ouverture et rétrécir l'influence des nationalismes. Flatter des racines locales n'arrêtera pas la marche de l'humanité. Les retardataires qui appellent les Gaulois à leur secours n'ont qu'à acheter des bonnes lunettes ou des jumelles si leur rétroviseur ne gouverne pas. Et si, au lieu de nous promener dans les catacombes gauloises, de nous déprimer en accusant et rejetant les uns après les autres l'identité nationale, eh bien, si l'identité nationale nous disait un peu ce qu'elle affectionne, ce qu'elle propose justement à ce nouveau siècle et ce vers quoi elle va nous permettre d'aller. Pourquoi n'affirme-t-elle pas avec détermination ce qui pourrait nous rapprocher, consolider notre foi en un destin collectif ouvert sur le monde? L'éducation, encore et toujours, première des nécessités. Parce que le savoir ôte de la force à la haine, l'éducation reste le meilleur antidote face aux menaces qui guettent la société. Même si les dresseurs du cirque politique nous prennent pour des ânes, persistons à distinguer le bon grain de l'ivraie malgré les coups de gourdin qu'ils assènent à l'esprit. Hey, Marianne, porte plainte! Donc, voilà, l'identité nationale, eh bien, l'identité nationale, elle a de bons et de mauvais côtés. C'est un peu ce que nous dit Fatou Diomé ici. Les mauvais côtés, bien sûr, on les connaît. Elle pourrait avoir de bons côtés si elle constitue un véritable appui pour une population plurielle. Or, pas du tout. La France n'est pas une nation multiculturelle, a dit François Fillon. C'est donc François Fillon que cite Fatou Diomé, et c'est évidemment ce contre quoi elle va s'élever. La France n'est pas une nation multiculturelle, a dit François Fillon, mais c'est aussi ce que disent beaucoup de nos ministres ou de nos dignitaires politiques. Alors, au contraire, du calme. Il y a danger à se laisser gouverner par des absolutistes, car ceux qui veulent tout faire accomplissent peu de choses et ceux qui se vantent de tout donner nous étouffent généralement avec ce dont nous n'avons pas besoin. Rappelez-vous, en 2007, on nous a même gratifié d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Ah oui, d'accord. Mais non, cela n'enchanta que ses créateurs. Moi aussi, je voudrais donner. Hélas, pauvre mortel, je n'ai pas grand-chose. Mais si Marianne ouvre les bras sans me reprocher qui je suis, voici mes indépendables Tiwan Nominka, mes cotonnades serrères, rayées blanc, noir, violet, pour habiller l'humain et ses multiples représentants. Pour communier avec Marianne, j'ai invité mes pangoles, les esprits de mes ancêtres cédaux. Voici donc mes masques animistes, mes calebasses de mil, mes jarres de lait caillé destinées aux libations ou à la consommation, mes danses endiablées, mes polyphonies, ma musique composite, ma plume de pélican, et moi, mon encre mauve d'errance, ma francophonie sénégalaise, ma langue aux 7 accents, et même cette grosse fraise sous mon décolleté. Déposer de telles offrandes aux pieds de Marianne, qui pourrait juger cela coupable? Hélas, peut-être, oui, la marine marchande de haine et ses tristes matelots. Mais, mes frères et mes sœurs, formons à une immense ronde ensoleillée, que nos éclats de rire lui rappellent son siècle.
La France n'est pas une nation multiculturelle. Nous piétinant ainsi, se croit-il devant une cargaison de bois d'ébène au port de Nantes ou dans un champ de coton régi par Colbert ? Faire tout pour la France, mais quoi exactement ? Étaler leur insatiable ambition, soumettre l'immensité de l'univers à coups de bottes ou reconnaître enfin le désespoir qu'ils nous causent à force de réduire nos rêves de paix en miettes. Face au loup, même une pintade se défend. Il s'agit de dire non, de rendre leur salve à ceux qui croient qu'une campagne électorale consiste à indexer, accuser et montrer les dents. Plus les programmes sont fragiles, plus le marronnier attire l'identité nationale. On s'accommoderait de la répétition si les bégayeurs ne se bornaient à définir ladite identité par la négative. Dire ce que n'est pas l'Atlantique ne suffit pas à dessiner ses contours. Identifier, nommer, valoriser ce qui fait la France ne peut consister seulement en cette paresseuse désignation de tout ce qu'on croit ne pas lui appartenir. Pointer, circonscrire, ôter, cette soustraction permanente ne peut ni rappeler ni présenter la France telle qu'elle est aujourd'hui, encore moins poser les jalons pour la continuer. La vision qu'en ont les nostalgiques et les frileux est trop étriquée. Tous ces crispés, effrayés par les courants d'air de la mondialisation, devraient s'habiller d'intelligence et sortir de leurs obsessions nationalistes. La France ne peut se renfermer sur elle-même afin de leur tenir chaud, à moins de renoncer aux idéaux qui font la place qui est la sienne parmi les nations. Le souvenir d'une grandeur ne suffisant pas à la maintenir, la France doit donc sans cesse œuvrer à mériter ce qu'elle dit être. Échanges diplomatiques, économiques, culturels, dans ce monde nourri de confluences, l'avenir des peuples est incontestablement dans l'ouverture. Flux et reflux, dans les marées, les deltas vivraient sans les marées, les deltas vivraient dans la désolation. Fille de l'île de New York, je vous le certifie. Coupée de l'océan, un bras de mer n'est qu'une ravine sèche et stérile. La France vaut mieux. Alors, l'identité nationale. Cette identité, les esprits chagrins la définissent et la définiront toujours par la négative, par opposition à tout ce qui, à leurs yeux, incarne l'altérité. Qu'ils sachent qu'ici comme ailleurs, l'identité de toute nation, ce sont d'innombrables ruisseaux, de longueurs, de saveurs, de couleurs différentes, qui versent tous dans le même fleuve. N'en déplaise aux amers, aujourd'hui comme hier, Marianne fait ce qu'il lui plaît. Au fond d'eux, les jaloux pensent toujours qu'ils ne méritent pas leur compagne, qu'un autre la leur ravira. Pauvres anxieux, qu'ils fassent donc leur preuve d'amour au lieu de trembler. Les jaloux voudraient garder Marianne rien que pour eux. Tant pis, qu'ils ronronnent, leur cœur tenant dans une feuille de vigne, ça n'ira pas plus loin qu'un pique-nique. S'ils sont bien français, comment ne se rendent-ils pas compte que même les cubes de gruyère de leur cocktail offrent plusieurs facettes à la même réalité ? Coquette, versatile, toujours à rajeunir pour embellir, cette séductrice de Marianne a toujours fait ce qu'il lui plaît. Mais tous se battent pour la servir. Ceux qui la disputent aux autres connaissent-ils tous ses secrets ? La belle France, à laquelle on se réfère quant aux droits de l'homme, n'est-elle pas aussi celle du code de Colbert ? Peut-elle se dissocier de celle esclavagiste et colonialiste sans mutiler son identité ? Dresser le portrait d'une nation si complexe en quelques ruades, il n'y a que la mauvaise foi des manipulateurs de masse pour l'entreprendre. La France est multiple, ses passions successives, ses idoles innombrables, son identité lui ressemble. Essayez de dire ce qu'est l'identité nationale avec une morgue nationaliste revient à faire un tri sélectif dans l'histoire. C'est dire seulement ce qu'on voudrait que la France soit et non ce qu'elle est. La France a donné à l'Italie en 1515 Philiberte de Savoie, tante du roi François Ier, puis mariée en 1518, la princesse Madeleine de la Tour, fille de Jean IV, comte d'Auvergne, à Laurent II de Médicis, duc d'Urbino et neveu du pape Léon X. avant de faire de sa florentine fille Catherine de Médicis l'épouse d'Henri II et la reine de France.
Ah oui, 1515 Marignan, mais aussi le début des mariages italiens. On a eu Catherine, on a eu Marie, enfin bon, on est plein de Médicis chez nous finalement.
Cette France qui révère encore le nom des Médicis, au point de lui réserver un palais sur la colline du Pincio, où elle envoie ses écrivains s'ouvrir au monde et rêver à l'humanité. Cette France-là, madame, n'a jamais manqué de cœur pour accueillir une Italienne, mais aussi les autres. Elle n'a donc jamais prétendu que ses derniers invités feraient fermer la porte derrière eux. C'est vous qui avez peur des autres. Mais votre frayeur, cessez de l'exprimer au nom de la France. Marianne, porte plainte.
Eh oui, alors le souvenir des Italiens, c'était drôle en effet. On accusait quand même les Italiens, vous savez, à la Renaissance, d'avoir apporté à la cour de France, avec leurs gants de peau de Florence, avec leurs parfums, les poisons. Les Italiennes, elles étaient considérées comme des empoisonneuses. Et on a beaucoup reproché aux femmes de la cour de France d'être devenues des empoisonneuses. Alors quand on parlait tout à l'heure de jalousie, ben oui, c'est peut-être un peu ça. Hein. On reproche toujours, comment on dit ? On dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ben oui, on reproche bien sûr tout un tas de choses à ceux qu'on veut exclure, à celles qu'on veut exclure. Mais il n'empêche, Marianne porte plainte. Alors, elle n'a pas besoin de vigile, cette Marianne. C'est une pirate qui défend son butin. Mais elle défend son butin aussi contre d'autres pirates. La France n'a aucune raison d'avoir peur. C'est son ouverture, c'est l'amour qu'on lui porte de par le monde et c'est la liberté dont elle est l'image qu'on vient y chercher et qui la protège, même des autres. Alors, voyons, Marianne, une tonitruance peut-être, oui, une tonitruance de ceux qui la défendent bien maladroitement, avec des tirades incongrues. Ben non, Marianne, elle n'offense ni le message d'amour du Christ, ni l'Eucharistie et ni l'Église de Rome, puisqu'elle se revendique comme, vous savez, fille aînée de l'Église. Alors, c'est vrai qu'en ces périodes d'élection de nouveaux papes, eh oui, on se réfère à cette culture, comme on dit, catholique et romaine. On parlait tout à l'heure du Grand Prix de Rome, justement, qui est donné aux plus grands artistes et qui leur permettent d'aller passer un an à Rome. Bah oui, Rome, la capitale culturelle de l'Europe, et tout de même la France, avec Marianne, la capitale des libertés en Europe. Alors, oui, Marianne porte plainte. Ah là là, tous ces gourmands invités à se battre à table, aucune élégance. Invités des égoïstes, ils se disputeront les cuisses de poulet, s'approprieront les couverts de votre grand-mère, puis accuseront les autres de vol pour rester dans vos bonnes grâces. Honte à ces accueillis, pas accueillants, devenus de redoutables diviseurs de la France. Eh oui, contre les anciens migrants si bien intégrés qui maintenant veulent, comme on disait, fermer la porte derrière eux. Marianne porte plainte. Elle mérite qu'on l'aime telle qu'elle est et pas telle que les identitaires voudraient la représenter, amnésique et xénophobe. Allons, l'Alzheimer, cause nationale, combattons-le. Notre langue ne suffira pas comme ciseau pour ôter à Marianne sa part africaine. À force d'excaver les racines, elle pourrait vous écorcher. Certains ne taisent pas les leurs, ou même quelquefois les taisent par pudeur. Si votre vision de l'histoire était complète, vous, Français, vous sauriez que, parmi ceux auxquels vous contestez ce pays, nombreux sont les silencieux capables de le revendiquer, autant que vous, sinon plus et plus légitimement. Alors, autant qu'à vous, la France, en sa liberté, appartient aux descendants de ceux qui sont morts pour la défendre. Ce fut même le prix pour les vies perdues. C'est donc le même honneur pour leurs enfants et pour tous les enfants de France qui sont morts pour la défendre et qui peuvent maintenant en jouir pour ce qu'ils ont gagné ensemble. Cette France belle parce que libre. Les identifiables parmi les enfants de Marianne ont suffisamment été pointés, ségrégés, piétinés. Que les mémoires courtes Sache que nous ne baisserons jamais la tête en marchant dans ce pays où les nôtres, venus le défendre à deux reprises, fossilisent loin de leurs aïeuls. Hé hé, sur leurs traces, maréchal, nous voilà, mais non, ne nous voilà pas. Nous voilà, nous qui avons défendu la France, oui, dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, tant de fils du soleil dans la solitude de l'hiver éternel. À défaut d'être bienvenue, la visite de ces enfants, eh bien, il fallait bien qu'elle soit défendable. Seigneur, que de stèles d'Africains à Verdun, comme ailleurs dans l'Hexagone, tous devenus engrais de l'identité nationale. Alors, que l'on ne dispute pas les fleurs de ce sol, nom de la pipe de Brassens, que ma langue la lui rallume. Lui, il ne chassait pas l'étranger. Et puisque certains plaident pédigré, inventant même la filiation gauloise rétroactive, l'ADN de la République ne mentira pas pour favoriser les sombres desseins. Toute famille est bâtarde, puisqu'elle se ramifie, qu'elle multiplie ses attaches avec les autres, et c'est même sa survie. Alors qu'elle se mélange, oui, et que biologiquement et culturellement elle se mélange. Il en va de même pour la nation, d'ailleurs fondée non sur le lignage, mais sur l'adhésion à de belles valeurs universelles, transcendant les particularismes ethniques, régionaux et religieux. À la cour criminelle ou identitaire, des preuves valent mieux que des suppositions. Voici les miennes. Première guerre mondiale, un poilu aux cheveux noirs, le nez comme le mien, pas aquilin du tout, Arfang Langsar s'est battu pour la France. Sa vie durant, ma grand-mère, Aminata Sarr, me parla de son cher oncle, rentré médaillé de la guerre des Blancs. Et sa médaille ne le consola pas de la perte de ses nombreux camarades et ne rehaussa pas d'un centime sa pension d'ancien combattant noir, inférieur à celle de ses collègues blancs. Ce héros-là, il n'a pas de cénotaphe au Panthéon. C'est dans le cœur des siens qu'il a son tombeau. Et puis, Seconde Guerre mondiale. Diomé, eh ben Diomé, c'était pas moins français que Dupont. Debout parmi les braves, Aliou Diomé s'est battu pour l'honneur de la France. Et nous comptâmes, là encore, bien des morts. Avec leur mémoire, quelques-uns des nôtres entrèrent, ou plutôt n'entrèrent pas, au Panthéon. Dont Mama Seko Sarr, Phalang Sarr, Famara Sarr. Et sa vie durant encore, ma grand-mère me parla aussi de son cher cousin, Abdou Kadi Sarr, qui n'était jamais rentré de la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre des Blancs. Mémoire éplorée, oui, mémoire éternelle. Aminata Sarr, même lorsqu'elle ne compta plus ses printemps, énumérait encore tant d'autres de ses morts comme son cousin, de ses morts partis et pas revenus, si loin de Niodor. Santé, mes frères et mes sœurs de toute teinte, généreuse. Marianne est une belle qui multiplie les alliances, et les couards et les jaloux ne sont pas à sa hauteur. Voyez donc l'allure de ses amants. Garde au clair, glaive au clair, ils sont venus de partout pour sauver son sein des griffes du loup outre-Rhénan. Mais maintenant, nous sommes amis avec les loups outre-Rhénan et nous devons nous battre ensemble contre les loups qui nous poursuivent. Alors oui, alors pacifistes, les Serrères du delta du Saloum ont un drapeau blanc depuis 1350. Mais réputés pour leur tradition guerrière de défense, les miens, colonisés, ont été recrutés en masse sous le multicolore drapeau hissé par De Gaulle ou avant lui par d'autres maréchaux qui louaient leur courage. Un des derniers anciens combattants de Niodior, encore un Sarr, est un cousin de ma mère qui s'appelle Tokor. Tokor n'a pas quémandé les baisers de Marianne à la libération, il les a gagnés au combat. Tokor, son cœur vidé de toute haine de la guerre, ne prêchait que la paix. D'ailleurs, il est mort récemment dans son pays, totalement oublié par la France en paix. Mais lui n'avait rien oublié. À notre dernière entrevue, il me disait encore qu'il admirait De Gaulle, qu'il surnommait en Serrère le lion blanc. Comme à chacune de mes visites, il a chanté pour moi une marche militaire et il m'a demandé de lui traduire quelques mots du français. Alors, Tokor, humble soldat sard, initié au feu par Marianne, qu'as-tu vu ? Sous la mitraille allemande, comme les Arabes de Ouarzazate ou justement les Noirs du Saloum, les hommes sont tombés parce qu'ils étaient français. Ils étaient autant français que les Orléanais, que les Nancéens, que les Cherbourgeois, etc., etc. Dakar, en embarquant pour aller sauver ce qu'il restait de la grandeur de Louis XIV, Dakar est allé défendre la terre de Louis XIV. Quelle ingratitude osent dire à leurs enfants que Marianne ne leur doit rien. Si les herbes folles mangent les châteaux, faut-il que la mémoire des hommes fonde avec les neiges ? Allons, reposez en paix, tirailleurs. Repose en paix, soldat sard. Sous le sable de Niodior, si loin de Marianne, repose dans la gloire de tes aïeuls, qui ne sont pas gaulois, mais bien d'authentiques guelvards, qui à leur époque avaient résisté vaillamment aux Français jusqu'en 1850. Eh oui, la France du Père la Victoire et du serment de Koufra ne laissera pas des carriéristes récemment francisés persécuter les enfants de ceux qui ont secouru la France hier. Il est vrai que la paix favorise l'oubli, mais contre les oublieux qui l'exposent au déshonneur de l'ingratitude, la belle Marianne porte plainte. Marianne porte plainte. Puisque sur les tréteaux de chaque campagne électorale, des tribuns pyromanes martèlent leurs discours qu'ils revendiquent décomplexés, tablant sur la banalisation de la xénophobie, il est temps de leur tenir tête de manière tout aussi décomplexée. Rappelons aux identitaires de tout poil, cherchant sans cesse à honnir ou bannir ce que leur nationalité doit aux autres, que ce n'est pas amoindrir la France, c'est au contraire la respecter, que de lui restituer l'entièreté de son histoire. Ben oui, vous savez, à Marseille, par exemple, on a débaptisé la rue Bugeaud pour la rue Ahmed Litim. Ahmed Litim, c'est ce jeune tirailleur algérien qui est tombé pour la libération de Marseille en 1944. Alors oui, on a débaptisé la rue Bugeaud et rebaptisé cette rue du nom de Ahmed Litim, défenseur, algérien certes, mais à l'époque français, de la belle ville de Marseille. De la belle ville de Marseille, on va passer à la belle ville de Toulouse avec Zebda. Vous savez Zebda, oui, vous connaissez, tomber la chemise, etc. Eh bien Zebda, quand même, il nous a parlé aussi du bruit et de l'odeur. Et écoutez bien les paroles. Dans le deuxième couplet, il nous parle de ces tirailleurs qui ont défendu la liberté à Monte Cassino et qui n'ont pas toujours été reconnus justement à leur juste valeur. Merci Zebda, merci Jules. Mais c'était pas le bruit ou l'odeur. Donc évidemment, quand on a un disque, on a plusieurs plages, et même quand c'est plus des disques, c'est difficile de trouver la bonne plage. Donc on va changer, on va reprendre Zebda, mais vraiment avec le bruit et l'odeur. Vous savez, le bruit du marteau piqueur. Et le bruit et l'odeur, c'était ce que nous avait raconté Monsieur Chirac. Donc sur les travailleurs migrants. Donc Zebda et Le bruit et l'odeur, on y va, c'est parti ou ça va partir.
C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à ceux tombés à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, en polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux.
Dans les rêves, mais je n'abdique pas pour autant. Si la peur est un bras qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps.
Elle aime Noah, mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime Bouli, mais elle jamais rien aboli. Elle aime Noah, mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime Bouli, mais elle jamais rien aboli.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur.
Je me présente, voici. Je m'appelle Lardy Mamadou Juan et faites place. Guido Henri, Gino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai marre. De la peur que j'ai lu dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau du cœur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Eh, le bruit du marteau piqueur, oui, parce qu'évidemment, le bruit et l'odeur qu'on reprochait ou que les gens bien élevés, entre guillemets, reprochaient aux travailleurs migrants, c'était pas le bruit du marteau piqueur, c'était le bruit à la maison, les odeurs de cuisine. Mais enfin, nous, on est entre Méditerranéens, et que ce soit Zebda à Toulouse ou Pierre, Mohamed et les autres à Marseille, on aime bien l'ail et on aime bien les odeurs de l'huile d'olive et on est content du bruit et de l'odeur quand c'est bien sûr pour faire la fête. Et malheureusement, en effet, le bruit du marteau piqueur, bah oui, c'est celui qui a permis de construire, il nous le dit, les routes, les immeubles, etc., etc. Donc, bien sûr, c'est la référence à la mauvaise foi de ceux qui défendent l'unité nationale comme étant, je sais pas comment on dit, différente, peut-être, pas multiculturelle, peut-être. Donc, le bruit et l'odeur, on les revendique et on va faire la fête ensemble. Mais avant de faire la fête, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent mal. Et Fatou Diomé revient sur les aspects historiques. avec en particulier les exclusions que un certain nombre de politiques ont prononcées, disons, bien avant notre siècle.
Quand beaucoup se taisaient, Émile Zola eut le cran d'accuser. À défaut de me blondir, suivre son exemple me blanchira peut-être des soupçons d'illégitimité qui me poursuivent. Trop noire pour les autres, grappilleuse au banquet des Gaulois, venant d'Afrique, mieux vaut être une banane, un ananas ou l'uranium nécessaire à Areva pour être adoptée facilement. Jugeant, sélectionnant, les trieurs du cheptel divin sont sous toutes les latitudes, hélas, ainsi cernés de loups ou fuir l'existence pour être enfin en paix. Les mêmes qui destinaient Dreyfus à la curée, cassaient du nègre, brûlaient du juif, éteignaient la lumière des livres. Malheur, ils sont de retour parmi nous.
Oui, donc Zola, dans J'accuse, évidemment, il accusait ceux qui précisément accusaient Dreyfus. Il accusait ceux qui refusaient la mixité de la France. Et même si à cette époque-là, en effet, c'était les Juifs qu'on accusait, c'était aussi, et Fatou Diome le dit bien, c'était aussi et déjà les Noirs d'être trop Noirs, les Juifs d'être trop Juifs et tous les colorés d'être trop colorés. Ils n'avaient qu'à rester chez eux, chez ces gens-là. C'est bien ce qu'ils devaient faire, travailler pour la France et pour la France coloniale. Alors, la purge, elle a toujours besoin d'une excuse pour débuter. Et ensuite, elle outrepasse ce que les loups veulent faire gober aux naïfs pour obtenir leur assentiment. Eh bien, je ne donne pas le mien. Dans un pays laïque, même après des attentats, la peur n'excuse pas l'islamophobie, le racisme, le rejet de la différence. Sangor, réveille-toi ! La religion et le dieu économie versent du sel sur ta pépinière de rêve. Et les extrémistes de tous bords se fortifient de nos peurs. Dans cette France que tu aimais au point de l'épouser, certains glosent identité nationale, bâtissent des frontières dans les têtes et divorcent d'avec les valeurs de la République. Marianne porte plainte. À ma place, vieux Serrère, cher poète, que ferais-tu? Ta plume danserait, bien sûr, pour la justice et le rassemblement des enfants d'Ève. Adoptée ou pas, la seule fierté à partager ce pays avec les loups enragés, c'est de leur tenir tête, sans répit. Liberté à tous, soit, mais honneur aux méritants. Car être digne de Marianne est encore la meilleure manière de la revendiquer. Aujourd'hui ne se fera pas dans la justice sans une claire conscience d'hier. Il faut enseigner l'histoire et rappeler qu'au cours des deux grandes guerres mondiales, les ascendants des indexés pas assez d'ici, réquisitionnés ou volontaires, se sont battus aux côtés des patriotes et sont morts en terre européenne. Ils ont retrouvé l'Afrique endeuillée, oui, alors qu'ils défendaient l'avenir de la France. Et pendant que les traîtres à Marianne perdaient leur dignité au garde-à-vous devant, par exemple, la petite moustache d'Outre-Rhin. Noirs et blancs étaient debout, pareillement, pour le port de tête de Marianne, fière de tous ses enfants. Dans ces rangs-là, à l'époque, mesdames et messieurs les manipulateurs, ceux qui assimilaient le soldat au soldat n'avaient pas besoin d'une profusion de mots. C'était une valeur universelle, nichée au cœur des braves. Cette valeur-là ne se rouille pas. Elle s'appelle la dignité humaine. Elle mobilisait noirs et blancs à la défense et à la conquête de la liberté. Plus que jamais, nulle part, l'homme ne devait vivre à genoux. Alors, à vos armes, citoyens, debout, Aliou Diome. Aliou Diome, toi qui n'as pas reculé, ne recule pas maintenant. Je ne reculerai pas davantage devant les loups de la préférence nationale. De Niodior à Paris et jusqu'en Tasmanie, tant d'autres humains, debout, chantent, prêts à former une fraternelle ronde ensoleillée. Le trait d'union, en français, on s'en sert pour allier, relier, corréler des signifiés, que la paresse ne conçoit que dissociée. Cette même paresse intellectuelle qui sépare le genre humain par teinte, par lieu de naissance, par religion, par classe sociale, comme si le simple fait d'être de l'espèce d'Adam ne conférait pas déjà un incontestable statut à tous. Cette manie du tri cause les drames humains. Et si l'on n'y prend pas garde, c'est elle qui nous perdra. Face aux possessifs, aux isolationnistes, à l'esprit répulsif qui malmène une partie de la population française, les enfants de souche ou adoptifs de Marianne portent plainte. Marianne porte plainte, tes enfants portent plainte. Oui, bien sûr. Donc, ce rappel de l'histoire, on l'a dit et redit, Fatou Diome parle de l'histoire. C'est vrai que on a cherché à Marseille à rendre hommage à ces défenseurs de, entre guillemets, la France, à ces défenseurs, en tout cas, du sol français, qui ont défendu avec les armées alliées les valeurs de la République ou les valeurs de l'Europe contre, en effet, les régimes dictatoriaux de Hitler ou Mussolini au XXe siècle. Alors, Arméniens, Espagnols, Italiens, Hongrois, Polonais, Africains, Maghrébins, Vietnamiens, la France et Marseille n'a cessé d'accueillir différentes cultures. Elle est dans l'inconscient collectif et à juste titre une terre d'accueil. Pour ceux qui ont réussi leur intégration, elle est une formidable mère adoptive. Mais pour les autres, ceux qu'elle marginalise et persiste à traiter en étrangers, même s'ils sont nés français, elle n'est qu'une espèce de marâtre. Eh oui, quand le Front National revendique des racines gauloises à la nation et promet que, loin de l'assimilation, il ne veut pas adopter les adoptés un peu trop identifiables de Marianne, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, eh bien tout cela, non, nous le refusons, puisque personne ne veut disparaître dans l'anonymat de la couleur blanche. C'est pas très blanc, ils ne sont que les perpétuels boucs émissaires des identitaires. La question de l'immigration est toujours posée, elle concerne les mêmes. Mais la routine est une nasse qui retient l'esprit. Si pour une fois nous intéressions à l'intégration vraie de tous ceux qui, surtout, revendiquent ou ont défendu une identité nationale en bandoulière quand il y en avait vraiment besoin. Déchéance de nationalité, quelquefois, promettent-ils. À trop tendre l'oreille à droite, un certain Don Manuel Valls, vous avez entendu sa musique ? Elle n'était pas trop de gauche. Déchéance de nationalité comme menace. Déchéance de nationalité au menu, matin, midi et soir. Qui étions-nous ? Nous étions nombreux à nous interroger sur la validité de la nôtre. Notre nationalité, eh bien oui, elle n'était ni pérenne, elle était révocable. Nous, les Français bien visibles, on pouvait nous accuser et être expulsables comme des invités, mais des invités que les peu partageurs voulaient renvoyer. Qu'est-ce que c'est que cette France qui n'est pas ignifugée et qui a peur que ses enfants turbulents jouent avec des allumettes ? Qu'est-ce que c'est que ce fameux front républicain ? Eh oui, il y a eu des indignations solennelles, des indignations lyriques. Contre quoi ? Quelles étaient ces émotions, sincères ou insincères ? Quelles étaient ces promesses de combattre l'hydre ? C'était quoi l'hydre ? Les dangers des étrangers ? Les dangers du terrorisme ? Allons, allons, ne mélangeons pas tout. Alors que même la gauche a osé quelquefois assumer ce thème naphtaliné de l'extrême droite, cette marotte de la droite, effectivement, pour brandir le danger. Mais qu'est-ce que ce danger ? Et qu'est-ce que cette menace de déchéance de nationalité ? Tout de même, la nationalité, ce n'est pas une chemise prêtée qu'on retire aux ingrats un jour de mauvaise humeur. Allons, Clémenceau, Jaurès, Blum et Mendès France, redites à ce Don Manuel Valls que tout de même, on a validé nos politiques, on a validé nos immigrations, on a validé tous ceux qui sont venus au fil des ans faire la France. Alors, pourquoi faudrait-il ne plus les accueillir? Pourquoi faudrait-il ne plus protéger les plus faibles? Pourquoi faudrait-il jeter au loup tant d'enfants d'Ève? C'est difficile en écriture. On éprouve certaines choses, on doit en dire d'autres, mais il ne faut pas laisser perdre le Nord aux citoyens. Les enfants de la France, ont-ils su, ont-ils gardé dans leur cœur une partition, mais une identité qui les rapproche vraiment? Allons, Don Manuel Valls, ne chassez ni les morts, ni les noirs, ni les métis. Même radicalisés, nos voyous sont encore des champions qui sont bien les nôtres, au football, en quoi encore? Dans les arts, dans les films, dans tout ce qu'on reconnaît et qui fait la grandeur de la France. L'honneur d'un immigré, c'est qu'il a eu la chance d'être adopté et qu'il défend justement les couleurs de la France. Si le bon sens est là, en démocratie, eh bien, il demande un temps de réflexion, bien sûr. Il ne doit pas permettre de condamner, il ne doit pas permettre de sanctionner. Et il doit dire non à la réaction. Le régime de Vichy avait déchu Sainte-Jeanne-Perse de la nationalité. Vous vous rendez compte, Sainte-Jeanne-Perse? Oui, bien sûr, il habitait la Guadeloupe. La Guadeloupe était quand même une terre française depuis plus d'un siècle. Mais il était un peu trop coloré, notre grand poète. Il a eu le prix Nobel, d'ailleurs, de littérature. Eh bien, le régime de Vichy avait déchu Sainte-Jeanne-Perse de sa nationalité. C'est vrai qu'à l'époque, on ne reculait devant rien, ni dans la violence, ni dans le ridicule. Mais tout de même, déchoir des Français de leur nationalité, c'est vraiment se livrer à un ridicule achevé. Même si la déchéance de nationalité a finalement été abandonnée, un tel débat, cette marotte de l'extrême droite à nouveau, portée au pinacle par des ministres socialistes, c'est vraiment la preuve que la boussole politique est complètement déréglée. À gauche, elle vrille comme une toupie. Marianne, porte plainte. S'ils avaient écouté le hurlement des loups, François Mitterrand, Robert Badinter et les camarades des années 80 n'auraient pas aboli la peine de mort. Progressiste, parce que l'humain se doit de devenir mieux qu'il n'est, Madame Taubira, merci d'être restée debout. Un ou une leader progressiste digne de ce nom ne peut sacrifier la dignité humaine aux contingences. Et Don Manuel, après Matignon, partez, repartez lire. Vous savez, on l'a lu il n'y a pas très longtemps ensemble. Matin brun de Frank Pavlov. Vous savez, ceux qui assimilent ou désassimilent, ceux qui combattent les bruns et qui même éliminent les bruns. Ah non, ce sont les bruns qui éliminent les autres. Enfin, relisez Matin brun. Et puis, rassemblez-vous, enfants de Marianne, autour de Marianne, rassemblez-vous justement. Marianne porte plainte. Peut-être qu'un jour, d'autres raisons pourraient être invoquées pour être déchues. D'autres raisons pourraient être évoquées à nouveau pour être rejetées. Mais quoi? Il y a égalité des crimes entre tous. Il y a égalité des hommes entre tous. Relisons la Déclaration la Déclaration des droits de l'homme de 1948 aux Nations Unies. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Alors l'honnêteté commande d'admettre que la déchéance de nationalité, c'est bien une mesure raciste qui ne vise finalement que ceux qui, à un moment donné, veulent refuser les binationaux, veulent refuser les pas très blancs, et donc contre eux aussi. Marianne porte plainte. On va vous laisser, puisque c'est presque l'heure de se quitter, on va vous laisser avec donc notre mot d'ordre de manifestation de la semaine pour le samedi 17 mai à 17h30 au Vieux-Port. Et les camarades qui ont rédigé le tract, qui ont aussi d'ailleurs fait un petit jingle sur Radio Galère, eh bien les camarades qui vous appellent samedi 17 mai à 17h30 au Vieux-Port, ils vous disent que c'est un rassemblement anticolonial et de solidarité avec les peuples en lutte qui refusent la tutelle néocoloniale. Alors, sur l'affiche, sur le tract, il y a des points de toutes les couleurs. Et oui, avec ces points-là, Marianne porte plainte. À bientôt!
Here's a song that comes from Tanzania.